Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Les Nations Unies attendent que les civils reviennent au pouvoir dans un délai raisonnable en Guinée, mais jugent que les Guinéens doivent décider de la durée de cette transition après le putsch du 5 septembre contre le président Alpha Condé. C'est ce qu'a dit hier à Conakry Mohamed Saleh Anadif, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Monsieur Anadif a rencontré le chef de la junte, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, des chefs de partis et des diplomates. Nous reviendrons sur la Guinée en seconde partie de cette édition avec Nathalie Barge. Le chef de la junte tchadienne, le général Mahamat Idriss Déby Itno, effectue, lui, depuis dimanche soir, une visite de 48 heures au Qatar, où il a rencontré l'émir Tamim Ben Ahmed Ben Ahmad Al-Thani en tête-à-tête. C'est pour s'assurer de son soutien au processus de transition politique tchadien, a assuré hier N'Djamena. Mais c'est à Doha que vit en résidence surveillée l'un des principaux leaders de la rébellion tchadienne, Timan Erdimi, cousin de Mohamed Déby, d'où des rumeurs d'une possible rencontre dans la presse et les réseaux sociaux au Tchad. Au Nigeria, des dizaines d'élèves enlevés début septembre ont été libérés par leurs ravisseurs dans l'état de Zamfara, dans le nord du pays, où l'armée a lancé plusieurs opérations militaires contre les groupes armés locaux qui multiplient attaques et kidnappings depuis des mois. La coalition congolaise, publiée ce que vous payez, a dénoncé lundi dans un rapport une mauvaise utilisation des fonds d'investissement prévus en 2019 par le gouvernement du Congo-Brazzaville dans le domaine de la santé. Au Soudan, les inondations consécutives à de fortes pluies ont fait plus de 80 morts et endommagé ou détruit des milliers de maisons, a affirmé hier un responsable soudanais. La communauté internationale doit discuter avec les talibans pour éviter une catastrophe humanitaire en Afghanistan, a affirmé hier le chef de l'ONU, Antonio Guterres, alors qu'un premier vol commercial s'est posé lundi à Kaboul, l'un des premiers signes de normalisation du pays depuis le retour des islamistes au pouvoir. Avec Abdulrahman Dia, dans quelques instants, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken devant le Congrès sur l'Afghanistan. Le président Biden s'exprime là, lui, le 21 septembre, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York, a annoncé hier la Maison-Blanche dans un communiqué. Le premier ministre israélien, Naftali Bennett, a effectué hier une brève visite en Égypte, la première d'un chef de gouvernement israélien en 10 ans. Il a discuté avec le président Abdel Fattah al-Sissi du dossier sécuritaire et du conflit israélo-palestinien. En Norvège, l'opposition de gauche, menée par le travailliste Jonas Gahr Støre, un multimillionnaire diplômé de Sciences Po Paris, a remporté hier des législatives dominées par le sort des activités pétrolières du pays, mettant fin à 8 ans de règne de la droite. La tempête tropicale Nicolas s'est transformée en ouragan dans le golfe du Mexique à l'approche de la côte des États-Unis et se dirige vers la ville de Houston, a annoncé hier soir le Centre national des ouragans. Le président Biden a effectué hier son premier voyage de président dans l'Ouest américain pour marteler ses arguments sur le changement climatique et les grands investissements publics. But principal de ce déplacement, soutenir en Californie, un fief démocrate, le gouverneur Gavin Newsom, confronté à un référendum qui pourrait, en théorie, lui coûter son poste. Avant cela, M. Biden avait visité dans l'État républicain de l'Idaho un centre de coordination de la lutte contre les incendies. Le nombre et l'intensité des feux se sont multipliés ces dernières années dans l'ouest des États-Unis avec un très net allongement de la saison. Le réchauffement climatique pourrait forcer jusqu'à 216 millions de personnes à quitter leur région d'ici 2050, faute d'eau disponible ou d'une production agricole suffisante, avance la Banque mondiale. La suite de nos informations. Au Burkina Faso, 6 gendarmes ont été tués dimanche lors d'une attaque contre un convoi militaire dans l'est du pays. Entre les mois de mai et d'août, au moins 480 civils ont été tués dans des attaques, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. Le point avec Michel Joseph.
Dimanche, une équipe de la gendarmerie nationale escortant un convoi de citernes de carburant au profit de la société minière Semafo Bungo est tombée dans une embuscade entre Sokoani et Matiakoali, près de la frontière du Niger, a indiqué Amidou Soré, secrétaire général du gouvernorat de la région Est. Par ailleurs, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, au moins 480 civils ont été tués dans des attaques djihadistes entre mai et août. L'ONG norvégienne s'alarme de la recrudescence du nombre de déplacés avec plus de 275 000 personnes depuis avril. Près de 55 000 personnes sont forcées de fuir chaque mois leur foyer en raison des attaques. L'ONG pointe le choix impossible de certaines familles. Rester dans une zone assiégée où les pénuries de nourriture sont devenues si critiques ou bien marcher pendant plusieurs jours à la recherche de nourriture au risque de se faire tuer. Le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes meurtrières attribuées à des groupes djihadistes qui ont fait plus de 1500 morts et au moins 1,3 million de déplacés. L'attaque la plus meurtrière reste celle perpétrée à Solane, village de la région du Sahel, dans la nuit du 4 au 5 juin cette année. Au moins 132 personnes ont été massacrées.
Au Togo, un important mouvement de l'opposition accuse le pouvoir de vouloir terroriser la population après avoir introduit une série de mesures dont la fermeture des lieux de culte pour un mois face à la flambée de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Les détails avec Jacques Aristide.
La dynamique Monseigneur Capozzo affirme que rien ne sert de menacer, de terroriser les Togolais, pire de les toucher dans ce qu'ils ont de plus profond, c'est-à-dire leur foi et leur libre choix de se faire vacciner. Le mouvement DMK avait soutenu l'opposant Agbeyome Kodjo, arrivé deuxième à la présidentielle de février 2020. L'archevêché de Lomé a toutefois indiqué avoir obtenu une dérogation spéciale d'une semaine concernant plusieurs cérémonies religieuses importantes. Les autorités ont notamment interdit les mariages, manifestations culturelles, sportives et politiques pour un mois. Les bars et les discothèques ont également fermé leurs portes, alors que l'accès aux bâtiments administratifs est désormais subordonné à la présentation d'une preuve de vaccination. Le Conseil scientifique du Togo indique que le nombre de morts ne fait qu'augmenter, tandis qu'il y a une multiplication par 4 du nombre de malades. Le pays compte 23 718 cas, dont 205 décès, d'après des chiffres publiés hier. Mais pour le mouvement DMK, la lutte contre le Covid-19 ne saurait être un alibi pour prendre des mesures ne visant en réalité qu'à se maintenir au pouvoir en empêchant toute contestation.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, défend le retrait d'Afghanistan mis en œuvre par le président Joe Biden. Il a assuré devant le Congrès que les États-Unis s'étaient préparés au pire scénario, alors que de nombreux élus dénoncent, au contraire, l'impréparation du gouvernement américain Abdulrahman Diab.
Dans son discours d'introduction, le secrétaire d'État a précisé que Washington n'avait cessé d'évaluer la capacité du gouvernement afghan à rester au pouvoir. Même les analystes les plus pessimistes n'avaient pas prévu l'effondrement des forces gouvernementales à Kaboul avant le retrait des forces américaines, a-t-il affirmé lundi aux élus de la Chambre des représentants avant de répondre aujourd'hui mardi aux questions des sénateurs. Selon M. Blinken, une préparation à tous les scénarios possibles a permis de mettre en œuvre une gigantesque évacuation d'urgence d'Américains, étrangers et Afghans susceptibles de subir des représailles. Le président Biden avait confirmé au printemps le retrait total des forces étrangères d'Afghanistan prévu dans un accord conclu avec les talibans sous le mandat de son prédécesseur Donald Trump. Selon M. Blinken, du fait de cet accord, Joe Biden était face à une situation complexe lors de sa prise de fonction en janvier 2021. Les talibans étaient plus forts militairement que jamais depuis les attentats du 11 septembre qui avaient déclenché l'intervention américaine, tandis que le Pentagone avait déjà considérablement réduit sa présence. Donc, selon M. Blinken, il fallait soit mettre fin à la guerre ou s'engager dans une nouvelle escalade.
La Minute Écho, Nathalie Barge.
La Banque mondiale a annoncé des nouveaux programmes de développement dans les secteurs de l'énergie, l'éducation et les services au Cameroun pour plus de 760 millions de dollars. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, Ousmane Diagana, en visite au Cameroun, doit se rendre dans d'autres pays du continent dans le cadre de la nouvelle stratégie régionale de la Banque mondiale. Lors d'un accord avec une mission de prospection économique hier à Abidjan, le premier ministre ivoirien Patrick Hachi a exhorté l'Allemagne à investir davantage en Côte d'Ivoire. Les investisseurs ont manifesté leur intérêt pour les secteurs de la santé, l'énergie et les infrastructures. Monsieur Hachi a salué le savoir-faire allemand et rassuré sur l'accompagnement du gouvernement ivoirien. Semaine internationale du transport maritime à Londres. Selon l'Organisation maritime internationale, produire des bateaux moins polluants et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 va demander un investissement de près de 1500 milliards de dollars pour un secteur responsable de moins de 3% des émissions de carbone. L'OMI veut que les navires soient 30% plus économes en énergie d'ici 2025 par rapport à ceux construits en 2014.
Merci Nathalie. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Volleyball pour commencer. La finale de la CAN masculine qui se joue présentement à Kigali au Rwanda opposera le Cameroun à la Tunisie. Hier en demi-finale, les Camerounais se sont imposés au bout du suspense par 3-7 contre 2 pour le Maroc. Dans la seconde demi-finale, la Tunisie, tenante du titre, a disposé de l'Égypte 3-7 à 1. La finale est prévue pour ce mercredi 15 septembre. Football, la Ligue des champions reprend en Europe avec les matchs de la première journée de la phase de poule. Un classique d'entrée, le tout-puissant Bayern Munich débute par un déplacement au Camp Nou. Entre du FC Barcelone affaibli par les blessures de Sergio Aguero et d'Ousmane Dembélé et surtout par son dégraissage estival qui l'a forcé à se séparer de nombreux joueurs dont la superstar Lionel Messi. De retour à Manchester United, le club qu'il a révélé aux yeux du monde, Cristiano Ronaldo se lance dans la quête d'une sixième Ligue des champions avec un premier match à Berne face aux Young Boys. Dans sa soif inassouvie de record, le Portugais de 36 ans n'aura qu'à mettre un pied sur le terrain pour égaler celui du nombre de matchs disputés dans la compétition appartenant à Iker Casillas avec 177 apparitions. Dans l'autre match du groupe, le vainqueur de la Ligue Europa, Villarreal, se mesure à l'Atalanta Bergame. Le Séville FC débute, lui, face aux Autrichiens de Salzbourg. À Lille, les champions de France s'attaquent à Wolfsburg. Le tenant du titre Chelsea commence avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Match déséquilibré sur le papier en tout cas pour la Juventus Turin qui rend visite aux Suédois de Malmö. Toujours en Europe, l'AC Milan a annoncé hier saisir la Fédération italienne de football pour qu'elle enquête sur des cris racistes présumés dont son milieu de terrain français. Tiemoué Bakayoko affirme avoir été la cible de la part des supporters de la Lazio dimanche. Nous sommes forts et fiers de notre couleur de peau. J'ai pleine confiance dans notre club pour les identifier, a écrit Bakayoko sur son compte Instagram. En novembre 2019, les 20 clubs de Serie A ont publié une lettre ouverte à tous ceux qui aiment le football italien, disent-ils, pour dénoncer le racisme dans les stades qui est un motif de frustration et de honte selon eux. Les sélections sud-américaines sont appelées à disputer 3 nouvelles journées de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar lors de la prochaine fenêtre internationale début octobre pour mettre à jour le calendrier a confirmé hier la CONMEBOL. Comme début septembre, 3 et non 2 rencontres sont prévues les jeudi 7, dimanche 10 et jeudi 14 octobre afin de rattraper les 2 journées reportées en mars après le refus des clubs européens à libérer leurs joueurs en pleine vague de pandémie de Covid-19.
Merci Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, le chef de la junte, Mamadi Doumbouya, a annoncé une série de concertations tout au long de la semaine en vue de la mise en place d'un gouvernement de transition. La première journée débute aujourd'hui avec les chefs des partis politiques et les représentants des confessions religieuses. Nathalie Barge a joint à Conakry Azoka Ba, rédacteur en chef de Lynx FM et administrateur du site d'information Guinée Direct.
La première journée de concertation, elle va démarrer avec les partis politiques de la place et puis il est prévu aussi les confessions religieuses. Et puis mercredi, il y aura des rencontres avec d'autres représentants, notamment de la société civile. Le jeudi, d'autres structures sociales et entrepreneuriales. On parle des rencontres avec les banques, les représentants des banques primaires et commerciales de la place. Mais aussi, il y a les structures syndicales aussi. Ils ont dit qu'ils vont prendre 5 représentants par coordination régionale pour ces concertations qui pourraient peut-être aboutir à la mise en forme d'un gouvernement d'union nationale.
Alors, parmi les principales forces politiques, quelles sont celles qu'il faudrait citer et est-ce qu'elles sont préparées effectivement à se faire entendre lors de ces concertations?
Les grandes forces politiques en présence, on peut prendre l'Alliance nationale pour la démocratie qui est pilotée par l'Union des forces démocratiques de Guinée-FDZ. C'est la principale formation politique de l'opposition. Vous savez que Sélou Dalein avait participé à la dernière présidentielle du 18 octobre. Il s'était autoproclamé d'ailleurs président élu, ce qui a valu au parti tout ce qu'on a vu comme exaction, l'arrestation de ses cadres. Et donc, le parti FDZ qui a déjà annoncé avec l'ANAD soutenir la jeunesse, donc, sera de la partie, ça c'est évident. Il y a une autre coordination, une autre coalition de l'opposition qui s'appelle la Coalition pour la rupture, qui est pilotée par le parti Bloc libéral de Dr. Fayad Ndemono, qui a annoncé sa participation. Il y a la coordination de l'opposition aussi, pilotée par Mamadou Sylla, qui était jusqu'au 5 septembre chef de file de l'opposition. Et parmi ses membres, il y a Baouri, qui était un des membres du parti FDG, un opposant aussi farouche, qui ces derniers temps s'était montré très, très critique envers Alpha Condé. Il y a aussi un autre groupe qui est piloté par le docteur Ousmane Kaba, qui était candidat à la présidentielle du 18 octobre dernier, qui aussi a manifesté son soutien à la zone et qui s'est dit disposé. Donc, on pourrait le voir, et puis on ne peut pas quand même ne peut coûter le RPG arc-en-ciel, même si le parti vient de perdre le pouvoir à la suite de ce coup d'État du 5 septembre. C'est quand même une formation qui a des assises aussi à l'intérieur du pays.
Notre confrère Azoka Ba, joint à Conakry en Guinée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le président nigérien Mohamed Bazoum était pendant le week-end en visite dans la région de Tillaberi, dans le nord-ouest du pays, dans la zone dite des trois frontières. Comme à Diffa où sévit Boko Haram, il est allé s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire de cette région, régulièrement attaquée par les groupes terroristes du nord Mali. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Pour le journaliste et analyste des questions sécuritaires Jibril Seydou, cette visite du président Mohamed Bazoum augure d'une nouvelle lueur d'espoir pour les populations de la région de Tillaberi.
Ce type de visite entamée par le président Bazoum constitue des stratégies de stabilisation du pays dans un contexte notamment marqué par des violences qui prennent souvent des allures communautaires. Et cette nouvelle approche privilégierait en premier lieu les dialogues locaux afin de permettre le redéploiement de l'État central dans les zones rurales. Et cela pourrait également préparer à une réforme peut-être plus large de la gouvernance. C'est aussi une occasion de renforcer les opérations militaires qui sont, comme vous le savez, très essentielles, mais qui devrait aussi s'adosser à la stratégie globale qui consiste à parfaire le dialogue avec les communautés locales, qui consiste également à améliorer la gouvernance, parce que ce sont des actions qui pourront consolider des efforts qui visent à regagner la confiance des populations des zones rurales touchées par ces violences, des populations qui ont souvent l'impression que l'État est plus enclin à mener une répression et à aider d'autres personnes contre la menace djihadiste qu'à leur fournir des services de base. Donc, à mon avis, ce type d'action de proximité va davantage renforcer la présence de l'État, mais également confirmer la redevabilité vis-à-vis de ces communautés.
Bazoum Mohamed est allé à la veille de la reprise des classes alors que de centaines d'écoles de cette région sont fermées pour cause d'insécurité.
Et si les populations sentent qu'elles vivent dans un contexte où les choses fonctionnent normalement, les écoles vont s'ouvrir. Mais si la peur continue d'habiter les populations, évidemment, rien ne fonctionnera normalement. Je ne suis pas en mesure de vous donner des délais, moi. Moi, les instructions que je vais donner sont des instructions de nature à être exécutées immédiatement et avoir un effet immédiat. Donc, nous allons faire le pari qu'à la rentrée prochaine, les écoles marchent normalement, que immédiatement aussi les centres de soins puissent rouvrir et que la vie se normalise.
Un rapport publié ce 13 septembre 2021 par Amnesty International révèle que de plus en plus d'enfants sont tués ou sont ciblés pour être recrutés par des groupes armés dans le contexte du conflit qui fait rage au Niger, aux frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au sud Kivu, en République démocratique du Congo, la ville morte décrétée par la société civile de Wamuzimu, en territoire de Mwenga, a été partiellement observée. Cette société civile ne veut plus voir un seul sujet chinois continuer à y exploiter les minerais dans l'illégalité. Elle exige le retrait sans condition également des militaires qui sécurisent cette exploitation. Un reportage de notre correspondant au Sud Kivu, Ernest Muhero.
Les activités ont été partiellement paralysées l'avant-midi de ce lundi dans la chefferie de Wamuzimu, à 220 km de la ville de Bukavu. C'est en réponse à l'appel de la société civile locale exigeant le départ des sujets chinois qui exploitent de l'or dans cette partie du territoire de Mwenga. À Kitutu et ses environs, une bonne partie des activités socio-économiques ont tourné au ralenti jusqu'aux environs des 13h heure locale, comme le déclare Félicien Mwaka, président de la société civile de Wamuzimu.
Au cours de la journée, il y a eu des crépitements de balles. La population, elle a résisté. La situation, pour le moment, elle est devenue calme. Mais les motos, les boutiques étaient fermées, les marchés, donc tout était paralysé. Pour la population réclame ce qui suit. Zéro chinois en chefferie de Wamuzimu. L'indemnisation des victimes qui ont été touchées par les exploitations criminelles et illégales qu'on est en train de faire ici à travers les sociétés chinoises. Nous exigeons sans condition le retrait immédiat des militaires FARDC qui sont dans les sites miniers se trouvant en chefferie de Wamuzimu. On les a vêtus en tenue policière depuis le vendredi passé pour dissimuler leur présence dans les sites miniers.
Selon les chefs de la chefferie de Wamuzimu, le roi Christian Longangi, cette manifestation est légitime, mais les dérapages avec la police est plus lié au fait que certains manifestants ont commencé à s'apprendre à tout celui qui n'a pas répondu au mot d'ordre, ce qui a poussé la police à réagir. Christian Longangi.
Il y avait des marches de colère. Au lieu de marcher paisiblement, ils ont commencé à s'adonner à des actes de vandalisme. Maintenant, les gens ont voulu s'attaquer aux autres personnes qui circulaient, ils ont brûlé des pneus, ils commençaient à poser des barrières sur la route, soit disant que personne ne devait passer parce qu'il y avait marche. C'est comme ça que la police a tiré quelques balles en l'air pour disperser les manifestants qui cherchaient à troubler l'ordre public. Mais après, c'est devenu calme. Les activités ont repris juste vers 13h, 14h et la population est unanime à ce que tous les exploitants puissent d'abord quitter le site. S'ils veulent revenir, qu'ils reviennent reprendre à zéro et qu'ils respectent la communauté locale et qu'ils puissent respecter le code minier pour qu'il y ait la paix et la tranquillité dans ce qu'ils font. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de compromis. Nous attendons la commission parlementaire qui va arriver d'ici là.
Madame Kassindi Mulungula est cultivatrice. Elle s'indigne de voir l'exploitation minière la priver de son gagne-pain.
Nous, les femmes, nous ne sommes pas en contact par rapport à la présence des Chinois ici dans notre chiffre. Ils continuent toujours à travailler ou à détruire nos chiens. Nous, nous sommes fâchés. Parce que l'activité d'ici chez nous, nous faisons notre agriculture. Mais pour le moment, les femmes ne font pas ça. Tout, on a détruit. Et c'est notre indignation parce que les Chinois détruisent partout.
Signalons que la mission d'enquête parlementaire dépêchée par l'Assemblée nationale autour de ces dossiers d'exploitation minière en territoire des Mwenga est déjà à pied d'œuvre dans la ville de Bukavu. Ernest Mouero à Bukavu pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Le Qatar appelle à la réconciliation nationale en Afghanistan, un appel lancé lundi à Doha lors d'une visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La veille, le chef de la diplomatie qatari a effectué une brève visite à Kaboul, alors que Doha joue un rôle de médiateur depuis la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan le 15 août. Le Qatar était d'ailleurs au centre des négociations pour le retrait des troupes étrangères. Sur le rôle du Qatar en Afghanistan, Abdulrahman Dia a joint à Montréal Jamal Abdallah, professeur à l'Université de Montréal.
Le cher Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani en fait essaye de faire une sorte de continuité de la politique étrangère qatari très active depuis les années 2000 en fait. Il essaye d'appliquer le rôle de médiateur que le Qatar toujours a joué en tant qu'un mini-state, un petit état dans une région où il y a beaucoup, pas mal de conflits. Donc, il profite, en fait, le Qatar, de cette occasion de mouvement, de développement en Afghanistan pour jouer ce rôle de médiation, si vous voulez, et notamment après la crise entre le Qatar et ses voisins pendant 3 ans et demi, de juin 2017 jusqu'au janvier 2021. Donc, le Qatar, actuellement, essaie d'être très actif, en fait, dans ce rôle-là.
Doha a abrité les négociations entre l'ancienne administration américaine et les talibans. On a des grandes puissances régionales comme l'Arabie Saoudite à côté. Pour vous, quelle est la force de la diplomatie qatarie?
L'Arabie Saoudite reste la puissance la plus grande dans la région, mais l'Arabie Saoudite, après l'arrivée de Mohammed bin Salman et son père, le roi Salman, elle évite de faire une sorte de deal avec les mouvements ou le courant de l'islam politique, comme les frères musulmans, comme le Hamas, comme le Hezbollah et comme le Taliban. Donc, il essaye de créer, de dessiner une image moderne de l'Arabie Saoudite, ouverte et très éloignée de l'islam politique. Or, le Qatar, il joue ce rôle à la demande, à la carte. Le Qatar n'a pas osé d'ouvrir un bureau de Taliban à Doha sans l'autorisation des États-Unis. Au contraire, c'est à la demande des États-Unis que le Qatar a fait ça pour faciliter la discussion, les négociations avec le Taliban.
Alors, l'influence du Qatar, selon vous, va-t-elle s'accroître en Afghanistan quand on sait que Doha joue un rôle de premier plan pour essayer de rendre l'aéroport de Kaboul pleinement opérationnel à nouveau?
Oui, tout à fait. Moi, je dirais le Qatar, tellement c'est un petit pays, mais il joue un rôle très important. Et maintenant, le Qatar qui va gagner, si vous voulez, dans le sens où les aspects économiques, et notamment l'investissement et la reconstruction de l'Afghanistan, il va gagner pas mal de projets parce qu'il a une très bonne relation avec ce mouvement qui est revenu au pouvoir après 20 ans. Donc maintenant, la majorité des projets qui vont être proposés pour reconstruire le pays, c'est le Qatar avec ses alliés aussi, et notamment la Turquie qui vont le prendre.
C'était Jamal Abdallah, joint à Montréal. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de